Que le Seigneur soit béni pour ces moments. Nous allons ouvrir le Saint-Livre et lire un verset dans le psaume 145. Psaume 145, un texte qui nous rappelle ce que nous venons de chanter, comment Dieu agit. Je voudrais que ce soir, ça soit l'expérience de plusieurs qui sont peut-être affligés. Psaume 145, verset 14. Ce n'est pas de l'enseignement, ce n'est pas de l'édification, ce n'est pas de l'exhortation, c'est de l'évangélisation. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a certainement au milieu de nous quelques personnes qui ont besoin de ce que vous allez entendre. Psaume 145, verset 14. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Et tout le monde dit. Un autre texte dans Luc au chapitre 13. Luc chapitre 13, nous allons voir la réalité de ce que nous venons de lire. Dans la synagogue, une expérience qui s'est passée, donc dans la maison de Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Il y a eu en vérité deux choses, mais il y en a une qui nous intéresse. Luc chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Ça commence 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc pour vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » La réponse de Jésus, « Hypocrite. » Lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de sa crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait des choses glorieuses qu'il faisait. Et là, vous pouvez tous dire « Amen ». Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont toujours dans la confusion, le Seigneur agit, et ça n'a pas changé. Il y a des gens toujours dans le doute, toujours dans la susceptibilité, toujours dans l'incrédulité, vous voyez, ces gens qui en plus se sont fait taxer d'hypocrites dans leur propre synagogue. Moi j'aime bien cette honnêteté du Seigneur, parce qu'aujourd'hui on n'ose pas traiter les gens d'hypocrites, mais Jésus a eu le courage de traiter les pasteurs d'hypocrites dans leur église. Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'était bien ? C'est pas déontologique, ça. Est-ce qu'il avait raison ? Ben, il ne l'a pas fait par dureté. Il l'a fait pour les aider. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir des problèmes dans lesquels on se trouve. D'un côté, vous voyez, il y avait des gens confus qui sont passés à côté, alors qu'ils avaient eu le privilège inouï de voir Jésus venir dans leur synagogue. Ce n'est pas une grâce de voir le Seigneur Jésus venir. Et on le sait en plus, il l'a promis que Dieu était présent là où 2 ou 3 de ses enfants se réunissaient en son nom. Donc, c'est une vérité, le Seigneur, il redresse tous ceux qui sont courbés. Mais ceux qui ne veulent pas, je ne sais pas les hypocrites là, s'ils sont retournés courbés ou pas, mais c'est être courbé que d'être hypocrite. C'est terrible d'être hypocrite. D'avoir appris à jouer un rôle, de se déguiser. Cette semaine, j'ai failli préparer une prédication sur la femme de... Comment elle s'appelle hein, à qui il a demandé de se déguiser. Oh, comment il s'appelle ce roi qui a demandé à... Non, c'est un autre roi, c'est pas grave. Il a dit, déguise-toi. Va voir le prophète, déguise-toi. Jéroboam. C'est Jéroboam, voilà. Il demande, il dit à sa femme, écoute, tu vas voir le prophète, mais déguise-toi. Je me dis, mais que c'est triste de se déguiser pour aller dans la maison du Seigneur. Mais c'est pitoyable d'en arriver là, de vouloir se déguiser. On n'a pas joué de rôle. On doit être tel qu'on est. En tous les cas, on a des histoires comme ça. Elles sont merveilleuses, ces histoires. Elles ne sont pas pour qu'on bade devant ces histoires. Elles sont là pour dire, mais ce soir, Seigneur, ce que cette femme a vécu, je peux le vivre aussi. Ça ne fait peut-être pas 18 ans, mais ça fait peut-être 15 jours. Ça fait peut-être 3 mois que je suis courbé par cette situation. Le diable a réussi à me courber les chines. Parce que vous savez, il est fort pour nous, pour faire voir que les orteils. Je peux vous le dire. Vous avez déjà vu des gens courbés ? Oh, aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup, c'est rare. Mais moi, je me souviens, quand j'étais petit, la première personne que j'ai vue qui marchait courbée dans la rue. Mais ça fait pitié, des gens complètement à l'équerre. Hein. Vous l'avez déjà vu, ça? Déjà, mais on en voit, c'est rare aujourd'hui. Je ne sais pas si ça existe. Mais des gens qui marchent complètement courbés, qui ont les yeux rivés sur le sol, rivés sur la terre. Mais c'est l'image vraiment de la misère, alors qu'on devrait se redresser. Alors, attention, il y a deux choses. Le Seigneur, il dit, quand vous verrez les choses qui se passent à la fin des temps, redressez-vous. Il y a des fois, on n'a pas besoin que Dieu pose sa main. C'est à nous d'obéir. C'est à nous de nous redresser, parce qu'il y a juste un acte de foi à faire. C'est vrai, quand je vois les infos, je peux vous dire que c'est fait pour vous courber. Mais ça peut également vous amener à vous redresser et dire, non, je vois ces choses, les enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, les enfants? Mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? On entend des chrétiens qui ont beaucoup de foi, qui parlent comme ça, vous voyez. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir? Oh, j'espère qu'ils n'auront pas d'enfants, mes enfants. Parce que quand je vois le monde, écoutez-moi, tant que vous serez avec le Seigneur, Dieu vous gardera. Ce n'est pas la peine de commencer à vous courber avec de l'apitoiement et des ténèbres et de l'incrédulité. Le Seigneur, il redresse tous ceux qui sont courbés. Et ce soir, le Seigneur, il est là. Alors, de toute façon, ça sera l'un ou l'autre. Ou on sera comme ces gens qui étaient bouleversés, qui se réjouissaient parce qu'ils voyaient la grâce de Dieu. Ou on sera comme ces hypocrites. Alors, c'est peut-être pas la peine de devenir hypocrite, mais comme ces incrédules qui passent à côté de la bénédiction de Dieu. Et c'est dommage d'être dans la maison du Seigneur et de passer à côté. Vous ne trouvez pas? Il y a des gens qui procurent la paix. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux et ils vous parlent de Jésus, ils sont angoissants. C'est pénible, parce qu'il passe à côté de la bénédiction. Donc, la bonne nouvelle du Seigneur, l'évangile, c'est ça. Vous le croyez que la bonne nouvelle, c'est merveilleux? L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Pourquoi on dit bonne nouvelle? Parce que c'est exactement la traduction du mot évangile. Alors, les religieux sont passés à côté, et il faut faire attention. C'est facile de dire à ma place, c'est facile de dire oui, les hypocrites, il y en a partout. Mais quand même, Dieu nous met en garde. Quand il nous enseigne sur la prière, Jésus, il dit, quand vous priez, il parle à ses enfants, quand vous priez, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un pourrait m'aider? Ne soyez pas comme les hypocrites. Vous connaissez la suite? Alors on va le lire, allez, vous allez m'aider. Vous allez m'aider. Matthieu chapitre 6. C'est dans l'enseignement sur le Notre Père. Il y a beaucoup d'enseignements sur l'hypocrisie dans la Bible. Et c'est important. Pourquoi? Eh bien, pour qu'on ne le devienne pas. Pour qu'on ne le devienne pas. Matthieu chapitre 6, au verset 5. Il y a une grande bénédiction sur la prière. Mais on a vu tout à l'heure, avant le jeûne et prière, qu'on pouvait prier, et pour rien. Parce qu'on laisse des obstacles à la prière. Matthieu chapitre 6, verset 5. Avant d'enseigner comment prier, il enseigne l'état de cœur. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et vu au coin des rues pour être vus des hommes, je vous le dis, ils ont leur récompense. Alors dans une église, c'est quoi le plus important? Celui qui prie bien, qui s'exprime bien. Moi, on me l'a déjà dit, oh, monsieur Gault, vous priez bien. Est-ce que c'est important, ça? Est-ce que c'est important de bien prier, de bien formuler ses phrases, de faire attention à la syntaxe, etc.? Ben non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le cœur. Que vous priez à haute voix, que vous priez à mi-voix, bien sûr que c'est bien, comme tout à l'heure, chacun a prié, chacun son tour, c'était ordonné, c'était dans la bienséance. Moi, je me suis régalé. Mais il y en a plein qui ont prié, je suppose, qui n'ont pas prié à haute voix. Vous avez quand même prié, non? Vous, ceux qui n'ont pas élevé la voix, je m'appelle Caroline, vous avez prié dans votre cœur? Et voilà, on a tous prié. Dieu regarde au cœur. C'est une question de cœur. Et Jésus dit, mais attention, ne priez pas comme les hypocrites. L'hypocrisie, c'est quelque chose que Dieu déteste, parce que ça l'empêche d'agir. J'ai cherché, je crois, la définition dans le dictionnaire. Souvent, on me dit, mais il faudrait que vous expliquiez les mots, parce que ce n'est pas assez précis. Je l'ai mis, la définition? Oui, je l'ai mis, c'est sûr que je l'ai mis. La définition dans le dictionnaire de l'hypocrisie. Vice qui consiste à déguiser son propre caractère, à feindre des opinions, des sentiments, des vertus que l'on n'a pas. Voilà, on joue un rôle. C'est dommage. C'est bien d'être vrai. Oui ou non? Ben ouais, c'est ça qui plaît à Dieu. Dieu aime cette sincérité, cet honnête cœur, cette transparence. Oui, ben je suis courbé. Je suis courbé. Ce soir, je suis fatigué. Eh ben ce soir, laisse Dieu poser sa main sur ta vie. L'Éternel redresse. Peut-être après, c'est une question que de foi. C'est pas une question de guérison. C'est une question de foi. Eh ben le Seigneur te dit, redresse ta tête, car ta délivrance approche. Et voilà comment il faut avancer. Alors, un autre texte sur l'hypocrisie. Alors, vous avez vu, qu'est-ce qu'il dit? À la fin du verset 5, je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Ah, les hypocrites, ils sont quand même récompensés. Ah, ah, c'est bien ça. C'est quoi la récompense des hypocrites? La récompense des hypocrites, c'est que quelqu'un qui, vous voyez, qui joue l'hypocrite dans une église ou n'importe où, on peut dire, ah, il prie, tous les dimanches, il prie. Oui, te rends compte, cet homme, quelle foi, tous les dimanches, il prie. Alors, c'est une récompense, vous voyez ce que je veux dire? Les hommes vous louent. Après, c'est bien de le faire. Moi, je me souviens la fois où mon fils, Jonathan, on habitait encore ici à la maison, il me dit, papa, tu pries tous les dimanches? Tu pries tous les dimanches à l'église? Oui. Tu le fais, t'as envie ou t'as pas envie de le faire? Mais je dis, mais je sais pas, j'ai pas envie. C'est pas que j'ai envie ou pas envie. Je le fais parce que Dieu demande aux hommes de l'adorer. Alors je le fais de tout mon cœur. C'est pas écrit dans la Bible, prie quand t'as envie. Vous voyez ce que je veux dire? Ou adore Dieu quand t'es de mon poil. Il est dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Après, on le fait chacun à sa façon, mais je crois qu'il y a un plaisir de faire les choses de bon cœur. Si on commence à faire les choses quand on a envie... Bon, oui, bonjour. Alors, Matthieu chapitre 15, un autre texte sur l'hypocrisie. C'est important parce que le Seigneur a combattu l'hypocrisie. Les gens, vous voyez, cette femme, elle était courbée depuis 18 ans, Jésus a été vers elle. On voit Jésus aller vers une prostituée, on voit Jésus aller vers une femme de mauvaise vie, pleine de compassion. Mais les hypocrites, ça a toujours chauffé lorsque le Seigneur a eu affaire à des hypocrites. Matthieu chapitre 15, voyez avec moi. Il leur dit, verset 3, « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Regardez comment ils avaient tordu la parole. Regardez ce qu'ils avaient fait. « Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Le verdict est terrible, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voyez, cette hypocrisie, c'est terrible, parce qu'on cherche toujours des entourloupes pour essayer de ne pas obéir à Dieu. C'est de l'hypocrisie. Vous rendez compte ce qu'ils avaient dit, ça s'appelle la loi du corban, ils avaient dit, voilà, il faudrait que je m'occupe de ma mère, parce que Dieu dit, honore ton père et ta mère, ah mais moi j'en ai marre, il m'énerve, non, je ne le fais pas. Ça me coûterait combien, 400 euros par mois d'aider mes parents, ouais, mais les 400 euros, je les donne à l'église, comme ça je suis débarrassé. Mais ils en avaient fait une loi. Et les religieux s'engraissaient avec cette affaire, et ça ne plaisait pas à Dieu. Il faut honorer ses parents. Vous le faites? Est-ce que vous honorez vos parents? Votre père, votre mère, vous les avez encore, vos parents? Est-ce que vous avez vos parents? Eh bien, il faut les honorer. Il faut les honorer. Combien de gens j'ai entendu, ah, si j'avais mes parents maintenant, je ne ferais pas, je leur dirais que je les aime. Moi, j'ai entendu ça 1000 fois. Eh bien, dites-le lui. Dites-le à votre mari aussi, que vous l'aimez. À vos enfants. Vous avez des enfants? Est-ce que vous leur dites, oui, je t'aime? Eh oui, c'est ça, honorer. On a besoin d'affection. Est-ce qu'on a besoin d'affection? On a besoin de tendresse. Soyez plein d'affection, dit la parole de Dieu. Et voyez, tout ça, ça a contribué à l'hypocrisie. Et le Seigneur a été obligé. Il l'a fait par amour. Ne vous inquiétez pas. Le Seigneur n'était pas méchant envers les religieux, envers ces gens-là. Il voulait les aider. Il leur a dit, mais vous êtes dans l'hypocrisie. On peut sortir de l'hypocrisie. Dieu peut nous redresser et faire de nous des gens honnêtes. Le Seigneur est un Dieu qui guérit, mes frères et sœurs. On va lire cette prophétie qu'il a lui-même rappelée lorsqu'il est venu sur la terre dans Ésaïe 61. Ce sont des textes merveilleux. On devrait les lire régulièrement d'ailleurs. On doit lire toute la Bible en entier, mais je pense qu'il y a quand même des textes qu'on doit relire régulièrement parce qu'ils nous rappellent pourquoi on prie, pourquoi on va dans une église, pourquoi on a besoin de réunions comme celle-ci. Ésaïe 61, c'est vraiment la description du ministère du Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 61, verset 1er. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint. » Alors regardez ce que Dieu veut faire. Et c'est ce qu'il veut faire ce soir, pas demain. Ce soir, l'Éternel oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Les bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il n'y en a plus de bonnes nouvelles. Vous en entendez souvent des bonnes nouvelles à la télé? Non, il n'y en a jamais. Mais là, ce soir, la bonne nouvelle, qu'est-ce que fait Dieu? Si vous êtes malheureux, vous pouvez avoir une bonne nouvelle. La grâce de Dieu est réelle. C'est ça. Et si vous en avez besoin, ne vous en privez pas. On voit combien Dieu dit, mais ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Combien déjà on pourrait parler de début de Caïn, je pense à quand il est pris de l'exemple d'Ésaü, quand il est dit qu'il s'est privé de la grâce de Dieu. Pour un plat de lentilles, il a méprisé la grâce de Dieu. Il y a des gens pour des bêtises, des bricoles, ils se privent de la grâce de Dieu. Ils vont louper une réunion où ils auraient dû être. Je ne dis pas qu'il faut être à toutes les réunions, le problème il n'est pas là. Mais on peut se priver d'un culte, on peut se priver d'une réunion, on peut passer à côté de la grâce de Dieu. Il nous dit, mais ne soyez pas comme Ésaü qui pour un plat de lentilles, il a voulu obtenir la bénédiction et quand il l'a sollicité, c'était trop tard. Combien de gens, dès qu'ils meurent, ils doivent se dire, oh, si j'avais su. Je ne sais pas comment ça se passe une fois qu'on bascule dans l'éternité, mais je peux vous dire qu'il doit y avoir de sérieux, sérieux regrets. Parce que beaucoup de gens doivent réaliser qu'ils sont passés à côté. Mais ce soir, ne passez pas à côté. Le Seigneur, il est là, il est rentré dans cette synagogue. Il savait très bien que les pasteurs qui étaient là-dedans étaient des hypocrites. Mais il savait aussi qu'il y avait des gens qui voulaient être bénis. Et si ce soir, il y avait... imaginons, on est une centaine, il y a 99 hypocrites, il y a quelqu'un de sincère. Moi, je pense que c'est quand même l'inverse, mais imaginons. Est-ce que Dieu peut nous bénir à tous? Est-ce que Dieu peut bénir tous les hypocrites et toutes les personnes sincères aussi? Mais oui, si les hypocrites, ils avaient dit, Seigneur, tu as raison, on est des hypocrites. Est-ce que Dieu aurait pu les bénir? Est-ce que Dieu aurait pu les bénir? Mais bien sûr, n'importe qui peut être béni. Et le Seigneur leur a été sévère parce qu'il voulait les bénir. Quand Jean-Baptiste a vu les pharisiens approcher aussi et qu'il leur a fait une prédication un petit peu soft, hein, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, vous croyez que Jean-Baptiste les aimait ou les aimait pas? Tiens donc. Est-ce que Jean-Baptiste aimait ces gens ou est-ce qu'il les détestait? Mais il les aimait. Et ce soir, moi, je peux vous dire que Dieu nous aime à tous. Et regarde, il veut apporter cette onction sur l'Église. C'est pour ça que c'est bien de prier avant, de préparer les réunions. Et de dire, mais ce soir, je peux rentrer chez moi redressé. Pas physiquement, bien sûr, c'est bien. Si vous avez mal au dos, il vous faut plus qu'un kiné, peut-être. Il vous faudra peut-être la grâce de Dieu. Mais mes frères et sœurs, est-ce que c'est bien de repartir redressé? Il redresse, il y a une bonne nouvelle. On continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Combien de gens ont le cœur brisé? Il n'y a pas des épreuves qui brisent le cœur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir le cœur brisé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, ça m'a vraiment fait mal au cœur? Ça vous est déjà arrivé? Mais même physiquement, que ça a été psychosomatique, ça s'est projeté dans le cœur ou dans la tête, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Le Seigneur, il guérit. Ce n'est pas des blagues. On n'est pas dans la politique. On est dans le royaume de Dieu. Le Seigneur, ce qu'il dit, il le fait. On a chanté, n'est-il pas merveilleux? Il est merveilleux. Et ce soir, dans sa maison, ça dépend que de nous. Un acte de foi. Seigneur, moi j'ai besoin de me redresser, je vais le faire. Là, je n'ai pas besoin, comme je l'ai dit, de ta main qui me guérisse physiquement ou psychiquement ou intellectuellement. Là, j'ai besoin de faire un acte de foi. Il y en a marre de toujours me plaindre parce qu'il pleut, parce que si, croyez-moi, c'est une bénédiction la pluie. Et tant que vous ne verrez pas de l'eau dans les fossés, vous pouvez prier pour qu'il pleuve. Croyez-moi, parce que les nappes phréatiques sont basses. Et ça, on n'y pense pas. Mais quand on mange de bons légumes l'été, on est content que le blé est bon, on est content qu'il ait plu. Et voyez comment on est aveuglé. Comment on est aveuglé, mes frères et sœurs. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il libère les captifs. Aux prisonniers, la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Fin du verset 2. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Verset 4, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils releveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées. Verset 10, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse à mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Là, mes frères et sœurs, rien que ça, il m'a revêtu des vêtements du salut. Vous ne trouvez pas que c'est bien quand même? Non? On va rentrer tout à l'heure, hein, pouvoir dire, Seigneur, je suis revêtu du salut. Bon, je trouve que c'est quand même bien. Non? Mais il faut les vivre, ces choses. Le pasteur qui m'a formé, une des premières choses qu'il m'a dit, je me rappelle, ça m'avait scotché vraiment. Il me dit, Gérard, la vérité ne la dit pas. Vis-la. Ben, bien sûr, il faut la dire. Vous avez compris. Mais il m'a dit la vérité, ça ne se dit pas, ça ne se dit pas, ça se vit. Mais c'est vrai. Et on peut vivre ces choses. L'Éternel redresse que les chrétiens gentils. Non, il redresse tous ceux qui sont courbés. Mais il faut être sérieux. Cette femme, vous voyez, elle était là, 18 ans. Ça fait, c'est long, 18 ans. 18 ans qu'elle était courbée. Je ne sais pas, peut-être il y a 18 mois, peut-être il y a 18 jours, je ne sais pas. Mais n'attendez pas. N'attendez pas que la souffrance vous oblige à vraiment crier à Dieu. N'attendez pas que les choses dégénèrent. Combien de fois j'ai entendu, ben, j'ai tout essayé. Bon, maintenant je vais essayer la prière. Et j'ai dit, mais vous auriez mieux fait de commencer par la prière. Enfin, c'est une grande foi, ça, vous voyez. J'ai tout essayé. Maintenant, je vais essayer la prière. Je ne sais pas s'il faut rire ou quoi, mais je l'ai entendu, ça. Il faut commencer par la prière et terminer par la louange. Et dire, Seigneur, je crois ce soir que tu me redresses. Oui, je suis dans le deuil. Je suis triste. Qu'est-ce que tu proposes à la place du deuil? Une huile de joie. Oui, ça me va. À la place de la cendre, c'est dégoûtant de la cendre. Qu'est-ce qu'il propose à la place? Un diadème. Ah, oui, je change. Vous êtes d'accord pour l'échange? Vous trouvez? Mais c'est ça que Dieu veut. Mais c'est pas une blague. C'est la vérité. Et il faut que je laisse le Seigneur m'approcher. Vous avez vu qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait? On y va dans Luc 18 de nouveau? Luc 12? Luc 13? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle était là, elle était à sa place. Ben, comme nous, ce soir, on est à notre place. On est à notre place en étant dans la maison du Seigneur. Moi, je crois qu'on est à notre place. Le Seigneur, il ne va pas lui dire, ah bon, tu es courbé. C'est arrivé. Les maladies, c'est compliqué, les maladies. Parce qu'un jour, Jésus est entré dans le temple, il a vu quelqu'un qui avait été guéri, qu'il avait guéri d'ailleurs il y a quelques jours avant. Il avait été guéri, il était malade, lui, pas depuis 18 ans, depuis 38 ans. Et Jésus va lui dire, vous vous rappelez ce qu'il va lui dire? Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bon, déjà, malade depuis 38 ans, c'est pas mal. Je pense que l'enseignement signifie que quelque chose de pire, c'est d'aller en enfer. Parce qu'il y a des péchés qui peuvent provoquer la maladie. Toutes les maladies ne viennent pas, c'est clair. L'apôtre Paul, il a été infirme toute sa vie, à partir d'un certain moment. Est-ce que c'était à cause d'un péché ou parce que Dieu voulait le maintenir dans la grâce? Vous voyez? On ne peut pas juger, c'est pas parce que quelqu'un est malade qu'il a commis un péché. Parfois, c'est l'inverse. Mais une chose est certaine, c'est qu'on est à notre place. Cette femme, elle était à sa place. Elle était venue, elle aurait pu dire, ah, j'ai mal au dos, j'y vais pas. Non, elle avait certainement mal au dos. Elle était dans la maison du Seigneur. C'était important pour elle, la maison du Seigneur. C'est important, l'Église, moi, je trouve, non? Hein? Moi, je trouve que c'est important d'être dans la maison du Seigneur avec des frères, avec des sœurs, de se retrouver. Il y a la communion fraternelle. Tout à l'heure, on va discuter. Il y en a qui vont rester pendant une heure. Moi, ça m'est arrivé ici de rester avec des gens jusqu'à 11 heures du soir. Il y avait envie de parler. C'est bien la communion fraternelle, vous voyez? Mais il n'y a pas que la communion fraternelle. Il y a la bénédiction du Seigneur. Cette femme, elle était à sa place. Et lorsque Jésus la vit, eh bien, il lui a parlé. « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et elle se redressa. Et bien sûr, ce n'était pas étonnant, elle a glorifié Dieu. Ce soir, est-ce que vous voulez que Dieu pose sa main sur vous? Mais laissez-le s'approcher de vous. Laissez-le. Il vient vers vous en plus. Laissez-le vous toucher. Laissez-le vous dire quelque chose, un mot. Peut-être que dans la prédication, il y a une parole qui va vous interpeller. Peut-être que dans la prédication, il y a quelque chose qui va vous pousser à rentrer chez vous et à relire cette histoire ou à en lire une autre et dire, mais moi aussi, je veux vivre ça. Mes frères et sœurs, on a un Dieu qui est vivant. Et vous savez, Jésus a dit qu'il se laisserait trouver. Et il y a des gens qui disent, oui, si Dieu existait, il ferait ceci. Vous allez voir comment ils vont parler quand ils vont le rencontrer. Tous ceux qui veulent être bénis peuvent l'être. C'est écrit. Le Seigneur, il est venu pour cela. Il est venu pour nous guérir, pour nous bénir. Et on n'est pas là pour se déguiser, pour jouer les hypocrites. Il faut être vrai. Il ne faut pas avoir honte de dire « je me suis trompé ». Est-ce qu'on peut se tromper? Ben oui. Priez pour moi, je me suis trompé, j'ai fait une grosse erreur. Venez à mon secours, portez-moi dans la prière. C'est ça être vrai. Et ça, ça plaît à Dieu. Donc peut-être il y a quelqu'un qui est captif. En tous les cas, moi, quand je vois que Dieu donne un diadème à la place de la cendre, moi, je trouve que c'est bien. Pour terminer, mes frères, parce qu'il ne faut pas quand même le négliger. C'est ça que Dieu bénit. Vous savez, on peut être courbé, c'est pas marrant. On peut être affligé, c'est pas facile. on peut être dans l'épreuve, ce n'est pas intéressant. Mais il ne faut pas oublier tout ce que Jésus a vécu. Parce que lui, il n'a pas été courbé pour nous bénir. Lui, il a été frappé, humilié, flagellé. On peut le faire. Je pense que c'est honorer la parole de Dieu que de voir tout ce que Jésus a accepté. Être courbé, c'est grave, bien sûr, c'est grave de voir que le sol à la place de voir les étoiles. C'est sûr qu'il vaut mieux voir les étoiles que voir la terre, spirituellement parlant. Mais qu'est-ce que Jésus n'a pas subi? Vous avez tous lu Ésaïe 53. Vous avez été bouleversés quand vous avez lu Ésaïe. Oui ou non? Vous n'avez pas été étonnés, frappés de Dieu et humiliés, brisés pour nos iniquités? Là, on n'est plus dans la courbure. Hein? Là, on est dans une profonde douleur. Le châtiment est tombé sur lui. Vous vous rendez compte, le Fils de Dieu. Moi, je suis toujours bouleversé quand je pense à Marie qui était enceinte et qui portait dans son gros ventre le Créateur du ciel et de la terre. Moi, c'est quelque chose qui me bouleverse. Vous ne trouvez pas que c'est quand même pas mal, ça? Non? Est-ce que vous réalisez? Le Créateur des univers. Ils ont découvert une planète, enfin pas une planète, une étoile. Pour faire le tour de la Terre en avion, il faut 2 jours, d'accord? Vous savez combien de temps il faudrait pour faire le tour de cette étoile? En avion, 1700 ans. Ça vous donne une idée de la boule. 1700 ans pour faire le tour de l'étoile. C'est qui a créé ça? C'est notre Seigneur. Et notre Seigneur qui a créé des galaxies par centaines de milliards, qui contiennent chacune des centaines de milliards d'étoiles, ça commence à faire du monde. Eh bien, il est venu dans le sein de Marie pour que ce soir, pour que sur la terre, tous les hommes courbés puissent se redresser. Et il a été brisé, frappé, maltraité, mené comme un agneau qu'on mène à la boucherie. C'est écrit ou c'est pas écrit? Le Seigneur de l'univers, quand il s'est trouvé devant Pilate, il s'est trouvé dans le palais de Pilate. Pilate aussi, là. Tous ces hommes auraient pu dire à tout le monde, allez, sortez, sortez, laissez-moi seul avec Jésus. Est-ce que Dieu aurait pu bénir Pilate, Hérode, Caïphe, le sacrificateur, le souverain? Est-ce qu'ils auraient pu être bénis, ces hommes? Mais bien sûr, ils avaient qu'à dire, sortez tous de là. Moi, je sais pas, moi, j'aurais été le roi aujourd'hui d'un pays ou un gouverneur. J'aurais dit à tout mon staff, sortez de là, je veux me retrouver seul avec Jésus. Je veux qu'il me pardonne. Est-ce qu'il aurait pardonné? Ah oui, et il faisait les malins, et Jésus s'est retrouvé dans ses palais, et il n'a rien dit. Il n'a rien dit, il s'est trouvé devant Pilate, il n'a pas répondu à des accusations. Et là, cette pauvre femme courbée, elle a été bénie. Avec 2000 ans de recul, vous auriez préféré être cette femme courbée ou le gouverneur Ponce Pilate? Qu'est-ce que vous auriez préféré être? On a tous la réponse. Frappé pour les péchés, brisé par la souffrance, enlevé par l'angoisse et le châtiment. Non, il n'a pas été courbé, lui. Il a été brisé. Il a pris votre. Écoutez-moi bien. Il a pris ta malédiction pour que tu sois béni. Oui, lui, il a été plus que courbé, croyez-moi. La croix, ce soir, elle est là pour nous sortir du fossé. Vous savez, les gens courbés, ils finissent mal. Combien de gens, il y a un gars qui vient de temps en temps, là, il sera là ce soir, je ne le dirai pas bien sûr. Ça fait 18 ans qu'il vient, il est toujours saoul quand il vient. 18 ans qu'il vient, 18 ans. Il est dans le fossé, il est courbé. Est-ce que Dieu pourrait le guérir ce soir? Ben oui. Vous croyez que Dieu l'aime? Ben bien sûr. Et Dieu, il vous aime. Il aimait les hypocrites, il aimait Hérode, il aimait Pilate, mais il savait s'il fallait parler ou pas parler. Et ce soir, il sait ce qu'il a à nous dire. Et si vous êtes courbé, eh bien, où vous vous redressez, parce que c'est un acte de foi, où vous laissez le Seigneur vous toucher pour qu'il vous redresse et qu'il vous guérisse. Mais croyez-moi, mes frères et sœurs, le Seigneur, il est venu. C'est vrai que je n'ai pas lu tout à l'heure, vous avez peut-être fait attention, dans Ésaïe 61, je n'ai lu que les bénédictions. Mais il y a une phrase qui contient la colère de Dieu. Il est venu apporter une année de grâce, annoncer une année de grâce, mais aussi un jour de vengeance. L'année de grâce, on y est. Elle a commencé au calvaire. Elle finira à l'enlèvement de l'Église. La colère va venir. Mais en attendant, le Seigneur y redresse. Alléluia. Alors on pourrait fermer les yeux. Moi, je crois que ça serait bien. Je ne sais pas ce que vous voulez. Moi, j'aimerais qu'on chante un petit cœur. Dieu est là. Dieu est là pour bénir. On se recueille. Vous savez, vous pouvez faire un acte de foi à votre place. Tout simple. Tout simplement. Redressez-vous. je me redresse. Tout ce que Dieu va me dire par sa parole va me redresser. Croyez-moi, Dieu vous redressera si vous obéissez à ses commandements. Mais peut-être que vous avez besoin d'un attouchement divin, d'une grâce, d'une guérison, d'une délivrance, d'une onction, d'un diadème à la place de la cendre. Eh bien, pendant que notre frère Jonathan va nous faire chanter, s'il vous plaît, les musiciens, vous venez, on reste recueillis. Si quelqu'un a besoin, avancez-vous. Avancez-vous. L'imposition des mains, c'est quelque chose d'archi sérieux dans la Bible. Ils imposeront les malades, la main aux malades, et les malades seront, peut-être, non, ils seront guéris. Voilà notre Dieu, il est là. Cette femme, elle n'est pas partie en courant quand elle a vu Jésus s'approcher. Elle a laissé le Seigneur la toucher. Et si quelqu'un ce soir veut faire une expérience, il la fera. Et il n'y aurait que des hypocrites dans l'église, mais je peux vous dire que Dieu regarde au cœur. Et je sais que si on est là, quand même, on aime la parole. Alors pendant ce cantique, si quelqu'un veut se redresser, redressez-vous par la foi. Mais si quelqu'un a besoin d'une guérison, venez, on priera avec vous. Que Dieu vous bénisse.